18h. Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Bonsoir et bienvenue dans ce 18h sur Radio de la Paix. En titre, procès des 26 militants du PPACI, les condamnés commettaient bien un délit en accompagnant le convoqué d'Amana Picasse chez le juge, répondait ce mercredi le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly au terme d'un conseil des ministres tenu ce jour. Forum pour l'accès à l'énergie 2023, un colloque pour présenter aux populations des solutions innovantes avec fonction d'intelligence intégrée moins chère. Un point presse se tenait hier mardi à cet effet. Le compte-rendu de Paul-Bénédicte Bolou dans une poignée de secondes. Et puis sur au plan international, la Tanzanie confirme la présence du virus de Marburg dans le pays avec 5 morts déjà détectés. Voilà pour le sommaire. Il y avait trouble à l'ordre public par les militants du PPACI condamnés à 2 ans de prison récemment parce qu'étant allés soutenir quelqu'un à la phase de l'instruction judiciaire qui reste une phase d'enquête n'admettant pas de public, a répondu le porte-parole du gouvernement dans son communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 22 mars avant d'indiquer que les Ivoiriens actuellement en situation difficile au Niger vont être rapatriés. Le point avec Francis Cassi.
Face à la récente condamnation de militants du PPACI pour trouble à l'ordre public lors d'une convocation du Damana Picasse par le juge, le droit de manifester existe-t-il en Côte d'Ivoire ? A demandé un journaliste au porte-parole du gouvernement dans la phase des questions après son communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Voici la réponse d'Amadou Koulibaly.
C'était une manifestation spontanée, il faut employer le mot une manifestation sauvage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au tribunal, il y a des audiences publiques. Mais nous étions là dans le cadre d'une instruction. Et une instruction est reste secrète. D'ailleurs, on emploie très souvent le concept donc de violation de l'instruction. À partir de ce moment, ces personnes n'avaient rien à y faire. Seule la personne concernée et son conseil, à tout le moins, pouvaient y être. Parce que cela pourrait être considéré comme un trouble à l'ordre public dès lors que l'autorité chargée de gérer l'ordre public n'est pas informé.
Et il a aussi répondu à une question relative à des Ivoiriens en situation difficile actuellement au Niger.
Ce sont des ressortissants qui ont été refoulés d'Algérie, mais il n'y a pas que des Ivoiriens, hein, c'est plusieurs milliers donc, de personnes, parmi lesquelles nous avons un peu plus d'une centaine, je crois 128 Ivoiriens. C'est vrai que les conditions de vie sont difficiles, mais il n'y a pas véritablement de menace sur leur sécurité. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour les faire entrer dans les meilleurs délais. Mais priorité avait été donnée donc à nos ressortissants de Tunisie qui étaient en véritable détresse.
Le prochain Conseil des ministres aura lieu dans 2 semaines, soit le 5 avril, a indiqué le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly.
Parlant de migration et gestion des frontières, l'Organisation internationale pour les migrants en Côte d'Ivoire, OIM, en collaboration avec le ministère italien de l'Intérieur et le ministère ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, met en œuvre le projet de renforcement des capacités opérationnelles du gouvernement ivoirien en matière de gestion des migrations et des frontières, dénommé projet CIVIT. Ce projet qui vise la construction de 4 postes frontières dans les localités de Pékan Barrage, de Daouba, de Binta et de Doubasso, situés respectivement dans les départements de Touloupleu, Zouaouignan, Danané et Tingrela, va garantir un contrôle et une gestion plus efficace des mouvements aux frontières ivoiriennes. Le lancement du dit projet a eu lieu ce mercredi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à Abidjan, compte rendu signé Jean-Claude Mabéa.
La description du projet CIVIT a été faite par la chef de mission par intérim de l'OIM Côte d'Ivoire, Laetitia Tiron.
Le projet est donc axé sur 3 composantes principales. L'amélioration des infrastructures aux frontières terrestres à travers la construction et l'aménagement des 4 postes frontières dans des sites stratégiques pour assurer un contrôle plus efficace des mouvements transfrontaliers terrestres. Le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des autorités ivoiriennes en matière de gestion des frontières, des luttes contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants.
Ce projet civil visite vient renforcer la coopération sécuritaire ivoiro-italienne marquée par la signature d'un protocole d'accord entre les deux pays. S'est félicité le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantonesi.
Lutte contre le terrorisme,
contraste au trafic de la drogue,
donc la lutte contre le trafic de drogue et aussi la traite des êtres humains. Alors ce sont tous des points et des problèmes que nous partageons entre ces deux pays et donc c'est d'un accord commun et d'un intérêt commun pour nous de pouvoir régler ces problèmes ensemble. Et donc voilà pourquoi cet accord est très important.
Ce projet vient donc à point nommé, d'où cet engagement du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Général Vagondo Diomandé.
Je suivrai personnellement les activités liées à ce projet. Je voudrais vous assurer que ce grand projet sera réalisé intégralement et que la Côte d'Ivoire fera bon usage des postes ainsi que les équipements qui lui seront offerts.
Ce projet CIVIT, qui a démarré le 1er novembre 2022, prendra fin le 31 octobre 2025.
Et puis le directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme était l'invité du rendez-vous Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG hier, mardi 21 mars. La loi relative aux mesures de protection des victimes des violences domestiques, de viols et violences sexuelles autres que domestiques était le sujet du jour. Sur la principale innovation de cette loi relativement à la délivrance du certificat médical, écoutons Constant Zérignon, magistrat hors hiérarchie.
Les points sur lesquels je voudrais revenir constituent ce qu'on appelle des avancées avec cette loi. Les certificats médicaux posaient un véritable problème aux victimes parce que les certificats médicaux avaient un coût que les victimes ne pouvaient pas ou alors ne voulaient pas supporter. Parce qu'en réalité, quand une victime s'adresse à une unité de police judiciaire et qu'on lui demande de produire un certificat médical, parce que sinon on ne met pas en mouvement l'action publique, elle a naturellement le sentiment qu'elle doit payer pour une faute qu'elle n'a pas commise. Et donc, dans bien des cas, les victimes préféraient ne pas donner suite à leur plainte et les choses en restaient là. Alors, l'évolution majeure qui est apportée par la loi, c'est que désormais, on n'a plus besoin d'exiger de la victime un certificat médical au moment des poursuites, parce que la loi offre la possibilité à l'officier de police judiciaire, au procureur de la République, au juge d'instruction, d'adresser une réquisition pour les deux premiers à un médecin pour faire examiner la victime. Donc, ils ont, l'officier de police judiciaire et le procureur de la République, cette possibilité. Et pour terminer totalement, je voudrais réitérer l'intérêt qu'il y a à dénoncer tous les actes de violence dont vous avez connaissance, parce que de cette façon, vous sauvez toujours une vie.
À l'instant, le directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme, Constant Zérignon. Forum d'investissement pour l'accès à l'énergie 2023 de l'Alliance pour l'électrification rurale. Un point presse s'est tenu dans un hôtel de la commune de Port-Boué hier mardi 21 mars. Au centre de cette rencontre, la présentation des dernières solutions innovantes avec fonction d'intelligence intégrée, incluant des systèmes solaires pour fournir un accès à une électricité fiable et verte aux communautés ivoiriennes mal desservies et périurbaines, et ce face à la crise énergétique en Afrique. On fait le point avec Paul Bénédicte Bolou.
Sur l'engagement de Schneider Electric en matière de développement durable en Côte d'Ivoire, Thomas Bonicel.
La particularité de la Côte d'Ivoire, c'est que le réseau est quand même assez bien déployé. Du coup, le problème, c'est que le réseau est parfois coupé. Et donc, on va déployer la nouvelle solution que l'on a qui s'appelle Omaya Hybrid, qui va permettre de pouvoir, grâce à une batterie, alimenter une habitation lorsqu'il y a une coupure de courant. Et donc, la batterie peut être chargée soit quand on a le réseau de la CIE, ou si on veut rajouter aussi des panneaux solaires.
Et sur la réduction de la consommation dans la gestion des usages. Restons avec Thomas Bonicet.
Alors, c'est par exemple d'éviter de laisser une lumière allumée. Donc, ça passe par une minuterie peut-être, ou un détecteur de présence. Et après, justement, suivant où on veut aller, on va pouvoir mettre des solutions de plus en plus intelligentes pour pouvoir faire ce qu'on appelle la gestion intelligente de bâtiments. Donc, c'est plutôt ce qu'on va avoir dans des collèges, dans des centres commerciaux, pouvoir adapter la luminosité, la climatisation par rapport au nombre de personnes qui sont actuellement présentes.
Émile Moulundou, directeur général de Schneider Electric pour les pays subsahariens francophones, basé à Abidjan.
Nous sommes programme à ce forum, qui est le forum de l'accès à l'énergie, pour expliquer notre démarche, ce que nous faisons en tant qu'entreprise, en tant que participation à l'amélioration de la vie des uns et des autres. En quelques mots, c'est que Schneider est très engagé auprès des populations pour trouver des solutions moins chères, solutions qui résistent dans le temps.
Le dit forum est co-organisé par l'Alliance pour l'électrification rurale et la Banque africaine de développement et le Fonds pour l'énergie durable en Afrique.
Activité économique en Côte d'Ivoire. L'Institut national de la statistique vient de rendre public un rapport sur les comptes nationaux trimestre du troisième trimestre 2022. Rapport qui note une croissance des activités économiques de 4,3% comparativement à l'année 2021, mais souligne aussi une baisse de la mobilisation des impôts et taxes à 5,4% pour la même période. Quel est le rôle des comptes nationaux trimestriels dans l'analyse des résultats économique d'un pays et comment interpréter les chiffres communiqués par l'INS? Les éclairages de Dr Germain Cramo, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, également à la CAPEC. Il répond aux questions de Jean-Claude Comé.
Chaque trimestre, ces comptes-là retracent un peu les opérations qui ont lieu entre différents secteurs institutionnels, que sont les ménages, les sociétés non financières, les sociétés financières, l'administration publique et un peu le reste du monde. Ça nous permet d'avoir une idée de l'évolution de l'économie afin de rectifier les tirs s'il y a quelque chose à faire.
Au troisième trimestre donc de l'année 2022, le produit intérieur brut connaît une hausse qui est estimée à 4,3%. On note que cette progression découle de l'accroissement de certaines activités, notamment au niveau des secteurs tertiaires, avec par exemple plus de 6,4%, également secondaire plus de 5,3% et primaire qui est de 3,1%. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela?
Depuis 2012, avec le premier PND, le gouvernement s'est fixé pour objectif de réaliser la transformation structurelle de l'économie. Donc on peut voir qu'avec la réduction de la part du secteur primaire et l'augmentation du secteur secondaire et tertiaire, on est en train de réaliser la transformation structurelle qui permettra au pays de tirer un meilleur profit des différents produits qui sont faits dans le pays.
Ce rapport indique que les impôts et taxes indirectes sont toujours en forte baisse. Quelle stratégie met en place?
La stratégie, c'est d'élargir l'assiette fiscale. Nous avons un secteur informel, c'est très important, qui est entre 35 et 40% selon les estimations du FMI. Donc, il faut arriver à ce service fiscal qui amènera tout à chacun à s'acquitter ses taxes.
Vous écoutiez Dr Germain Cramo, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, également à la CAPEC. Lancement de la campagne Culture Forêt pour la sauvegarde, la préservation et la restauration des forêts de Côte d'Ivoire. L'Union européenne a porté son choix sur Azuréti, un village rattaché à la commune de Grand Bassam, pour une activité afin de sensibiliser la communauté locale et en priorité la jeunesse sur l'importance de la préservation du patrimoine. Au cours de la cérémonie, un échantillon de 1000 plants d'arbres a eu lieu avec les ambassadeurs de Suède et d'Allemagne. Un reportage de Matatouille.
L'histoire commence.
Ce sont environ 500 élèves bien en verve dans les différentes écoles d'Azuréti, entourés des représentants de rois et des autorités locales qui ont, dans un cadre entre mer et lagune, célébré une journée mondiale des forêts, célébrée par l'Union européenne, qui a voulu faire un focus sur un type de forêt bien particulier, celui de la mangrove. Francesca Di Mauro est ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire.
Mais la mangrove, elle a un rôle très important, évidemment pour la sécurité alimentaire, parce que c'est là que nidifient les poissons, mais aussi pour la santé des océans, la santé de la mer, et donc un village comme Azuréti qui dépend de la mer pour la pêche, pour sa sécurité alimentaire, on trouvait que c'était important, intéressant aussi de sensibiliser les enfants et qu'eux-mêmes après ils sensibilisent leurs parents à la protection en général de l'environnement.
Des initiatives saluées par les autorités en charge de ces questions à l'image du commandant Pierre Poigny, Stéphanie, directrice départementale des eaux et forêts de Grand Bassam.
Pour Azuréti, c'est important de mener une telle activité parce que Azuréti est une péninsule et c'est un lopin de terre entre lagune et mer. Et on a eu un exemple pareil à la Houpanda qui a pratiquement disparu. Donc si on y prend garde, Azuréti risque de disparaître aussi. Donc il est important de mener cette activité-là pour freiner un peu l'érosion côtière et ramener les poissons dans le milieu de vie.
Au cours de cette cérémonie, un échantillon de 1000 plants d'arbres a eu lieu avec les ambassadeurs de Suède et d'Allemagne notamment, à rappeler que la Côte d'Ivoire devrait abriter le 5 juin prochain la Journée mondiale de l'environnement.
Début des saisons de pluie en Côte d'Ivoire, selon la Solexam qui a publié son bulletin météorologique pour la période allant de mars à juin 2023. De fortes et grandes quantités de pluie sont attendues sur l'ensemble du littoral ivoirien et seraient comprises entre 417 et 865 mm. De quoi interpeller les Ivoiriens à la prudence. On écoute à cet effet les explications du directeur de la métrologie de Côte d'Ivoire, Daouda Konaté, joint au téléphone par Gapina Ouattara.
Nous rentrons progressivement dans la saison des pluies. En fait, nous faisons une probabilité par rapport à la quantité de pluie totale qui pourrait tomber sur une période donnée. Donc, les 250 millilitres que nous disons, par exemple, la partie nord qui est attendue, c'est la quantité de pluie totale qui pourrait tomber pendant la période de mars à juin 2023. Donc, c'est la probabilité d'avoir cette quantité de pluie. Ce sont les moyennes sur vraiment une période de mars à juin. Il faut comprendre que quand on parle de millimètres de pluie, c'est la quantité d'eau sur 1 mètre carré de surface donnée. La hauteur d'eau qui pourrait être convenue sur 1 mètre de surface. Donc, c'est le ratio qui est utilisé en termes de mesure pluviométrique pour estimer les quantités de pluie qui tombent sur une surface donnée.
À partir de quand peut-on parler d'une zone rouge ou de risque d'inondation?
Il y a plusieurs facteurs dans la risque d'inondation. Il y a d'abord la pluie, bien sûr, qui est un élément important, des facteurs favorisant pour la risque d'inondation. Mais également, il y a d'autres facteurs qui peuvent se mettre en place, notamment la l'aménagement du terrain, notamment les personnes qui vivent dans la zone à risque, sont sujets à des risques forts d'inondation. Donc, ce sont vraiment les certains facteurs qu'il faut prendre en compte pour déterminer le risque d'inondation.
Ce qui revient donc à dire que à compter de ce mois de mars jusqu'en juin, les Ivoiriens doivent être tout de même prudents.
Oui, effectivement, nous appelons la prudence dans nos bulletins d'alerte, dans nos bulletins de prévision, nous appelons à la prudence des populations.
C'était à l'instant le directeur de la métrologie de Côte d'Ivoire, Daouda Konaté. Au plan international sur le continent africain, la Tanzanie confirme la présence du virus de Marburg sur son sol pour la première fois. 5 personnes ont déjà été tuées par le virus détecté dans la région de Kagera, dans le nord-ouest de la Tanzanie, près de la frontière avec l'Ouganda. Les premiers cas suspects ont été signalés la semaine dernière dans les villages de Bulinda et de Butaibega. Et sur 8 patients déclarés atteints, 5 sont décédés. Les 3 autres sont actuellement hospitalisés. L'Ouganda, voisin de la région de Kagera affectée, a indiqué être en état d'alerte. Et de son côté, l'Organisation mondiale de la santé a salué la réaction rapide des autorités tanzaniennes. Et puis, la contestation contre la réforme des retraites adoptée grâce au 49.3 se poursuit en France. Et demain, jeudi 23 mars, pour la 9e journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale, le trafic sera très perturbé dans les transports alors que le roi Charles III est attendu pour une visite en France du 26 au 29 mars prochain, sa première visite d'État en tant que monarque. Cette information clôt notre journal, le rappel des titres à présent. Procès des 26 militants du PPACI, les condamnés commettaient bien un délit en accompagnant le convoqué d'Amana Picas chez le juge d'instruction, répondait ce mercredi le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly au terme d'un conseil des ministres tenu ce jour. Forum pour l'accès à l'énergie 2023, un colloque pour présenter aux populations des solutions innovantes avec fonction d'intelligence intégrée moins chère. Un point presse s'est tenu hier mardi à cet effet à Abidjan, Port-Bouy. Et puis la Tanzanie a confirmé la présence du virus de Marburg dans le pays avec 5 morts déjà détectés. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis pour cette dernière édition de ce mercredi 22 mars 2023 sur Radio de la Paix. Merci et excellente soirée à tous.
Radio de la Paix,